Interview.
2 jours.
Salut à toutes, salut à tous, c'est Ruff Inspiré. Je suis ici à la boutique Indica avec tous les associés. Je vous laisse vous présenter.
Salut, Benjamin, maraîcher Adi depuis 2018, associé dans cette boutique pour la vente de CBD local.
Salut, c'est Elsa, je fais partie de la ferme Saflore, je travaille avec Florian.
Et ben moi c'est Florian. Et du coup, de la ferme Saflore, on a ajouté cet atelier de cannabis légal, comme on dit, ou cannabis light.
Et du coup, Ellie de la ferme Vercors Sativa. On est au 16 rue Camille Buffardel, donc c'est le bas de la rue Camille Buffardel quand tu viens du Bahut.
C'est plutôt bien placé, non, comme endroit?
Donc ça fait 2 mois et demi qu'on est installé. Ce qu'on remarque, c'est qu'on est quand même un petit peu à l'écart du centre, donc c'est une rue qui est très passante. Les gens ont tendance soit à être au tout début de leur entrée en ville, donc ils se dirigent vers le centre, vers le marché, etc., ou alors, au contraire, ils sortent du marché, ils n'en peuvent plus, ils courent, les vélos, les voitures, etc. Heureusement pour nous, il y a de plus en plus de locaux qui reconnaissent la qualité des produits et qui font le déplacement, qui font le choix conscient de venir ici.
Donc c'est quoi, boutique, magasin de producteurs?
Alors c'est pas réellement un magasin de producteurs, c'est un local qu'on loue à 3 entités, donc 3 agriculteurs, 4, puisque moi je suis avec... Elsa, sur ma ferme, mais voilà, on paye chacun un tiers des charges et on tient un tiers des permanences. Mais on n'a pas de structure indépendante pour le magasin qui serait un magasin de producteurs.
Vous êtes ouvert depuis le mois d'avril ?
Depuis le 20 avril à peu près.
Et c'est quoi les premiers retours des clients ? Est-ce que vous, déjà, vous êtes satisfait de la fréquentation ?
Eh bien, personnellement, je suis vraiment touché par le fait que les locaux se déplacent. Et c'était un pari, car il y avait déjà un magasin de CBD qui propose du CBD Adi. Là, ce qui nous différencie vraiment de ce magasin, c'est qu'on est producteur, transformateur, on est dans la vente. C'est-à-dire que les gens ont un contact direct avec nous et on a vraiment vu que c'était une valeur ajoutée, puisque les gens font le déplacement pour venir ici, viennent, reviennent et reviennent. On sait pourquoi on fait ça quand on a des gens qui nous témoignent de certaines guérisons, ou au moins du bien-être, etc. Donc voilà, c'est assez prometteur.
Je pense qu'on peut dire que globalement, on est plutôt satisfait en termes de vente. Enfin, pour un début et avec le temps, le printemps très pluvieux qu'il y a eu, il y a quand même une fréquentation correcte. Donc on est plutôt content, dans ces conditions-là, c'est plutôt pas mal.
On va parler des vertus de vos différents produits, parce que Ellie, tu parlais de clientes et clients qui ont réussi à se soigner avec vos produits. Est-ce que vous voulez parler des vertus de différents produits et de comment on les utilise?
On est agriculteur, donc on n'est pas censé parler des vertus des produits, comme chacun sait dans le Diwa, même si forcément on a un produit bien-être, donc forcément on doit communiquer dessus. La molécule de CBD, puisque dans le cannabis, ou le chanvre, comme on veut, c'est la même chose. Il y a 100 de cannabinoïdes, plus des terpènes, des flavoïdes. Et du coup, chacune de ces molécules ont des particularités santé, on peut dire. Les particularités de la molécule de CBD, c'est qu'elle a un spectre très large. Elle est calmante, qu'elle aide à faire dormir, à contrôler les douleurs. Certains parlent de tramadol, qui est un médicament très fort qu'ils ont arrêté grâce au CBD. Il y a un côté anti-épileptique. Voilà, plein de petites choses qui peuvent amener un bien-être. Alors, ce n'est pas un médicament miracle, comme certains pourraient faire croire, ou certains disent pour décrédibiliser l'ensemble des propriétés du CBD. Mais clairement, il y a un effet bénéfique sur la santé à plein de niveaux. Suivant notre réceptibilité personnelle, puisqu'on a des récepteurs pour les cannabinoïdes. Puis après, on fait aussi, on parle toujours de CBD, mais on fait aussi des variétés à dominante CBG, qui, elles, ont des particularités plus ciblées, elles sont plus anti-inflammatoires et antiseptiques. Elles sont plus dynamisantes, moins pour la détente, on peut dire. Mais elles ont vraiment leurs particularités musculaires, tendineuses, ce genre de choses. Et aussi pour le ruminement, le côté psychologique, il y a un effet assez particulier du CBG, d'après ce qu'on dit.
Finalement, le produit brut, c'est des fleurs de chanvre à dominante CBD. Ensuite, ces fleurs-là, comme toutes les plantes sèches qu'on a toujours consommées au cours de l'histoire, finalement, elles ont des particularités d'usage, mais c'est surtout l'utilisateur, en fonction de ses besoins, qui va le déterminer. Les cannabinoïdes, ils sont attirés par l'alcool et par le gras. Du coup, la fleur de chanvre qui va passer par qui va être chauffée, donc décarboxylée, et qui va être mise dans un solvant de gras ou d'alcool, finalement, récolter les bénéfices de ces principes actifs-là. Donc ça peut être cuisiné, ça peut être vaporisé, ça peut être brûlé, ça peut être infusé. Et ça peut être, bon, donc il y a aussi des baumes qui peuvent être en effet local, qui peut avoir l'intérêt de ne pas avoir l'ingestion et d'être plus ciblé.
Depuis pas longtemps, on a aussi une résine qui est ce qu'on appelle le pollen, mais c'est pas du pollen, c'est plutôt les trichomes, donc les petites glandes avec les cannabinoïdes dedans qu'on fait tomber en ayant refroidi beaucoup la plante avant. Et du coup, ça s'agglomère et ça fait de la résine, ce que dans l'illégal, souvent, on appelle du shit. Voilà, et du coup, ça permet d'avoir un petit concentré. Du coup, nous, c'est Ellie qui fait ça, et c'est de sa variété CBG, parce que c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé moyen de faire ça avec de la variété CBD en restant dans les taux légaux de 0,3% de THC. Du coup, voilà, il y a aussi ça qui, lui, se consomme comme les autres. Hein, il peut être consommé en alimentaire avec un corps gras, en le décarboxylant, comme précisait Ellie, donc en le chauffant un certain temps pour transformer la molécule en une molécule assimilable par le corps. On peut le fumer, mais c'est la moins bonne des façons de le faire. Donc on peut aussi le vaporiser. On ne peut pas l'étaler sur la peau, ça ne marche pas avec ça.
Je vois qu'il y a des petits accessoires en bois et en verre avec comme des tuyaux. Est-ce que, Florian, tu peux nous dire ce que c'est ?
Donc, c'est des vaporisateurs d'herbes sèches que je fabrique, utilisables au briquet tempête, donc une flamme bleue pour que ce soit safe pour la consommation. Donc, le principe, c'est qu'on chauffe l'air qui est au bout du tube, qui lui débouche après dans la plante qui est dans un petit bol, et à l'autre bout on aspire et on chauffe l'air dans les 200 degrés puisque la molécule, les cannabinoïdes sont assimilables et se dégagent entre 180 et 210 degrés. Donc là on atteint cette température, on inhale et ça permet de consommer le cannabis ou d'autres plantes. Voilà, moi aussi l'hiver je consomme aussi un peu de lavande, de menthe, ça permet d'avoir un effet contre le froid, on va dire. C'est des vaporisateurs d'herbes artisanaux avec des matières nobles, pas de plastique, et ça permet de consommer sans combustion et sans tabac. Donc avec, a priori, aucun effet négatif sur la santé ou vraiment minimal comparé aux bienfaits qu'on peut avoir à côté. C'est comparable à certains zones marques de vaporisateurs électroniques, Storey Bickel, Ariser, qui sont des vaporisateurs industriels à batterie.
Est-ce qu'on peut revenir sur la différence entre le CBD et le CBG ? Est-ce que l'un ou l'une de vous voudrait me donner la signification déjà des lettres et ensuite revenir sur la différence entre les deux ?
Le CBG, c'est cannabigérol, et c'est le cannabinoïde, on l'appelle mère, car il est le premier à se former dans la plante. Ça veut dire que les variétés à dominante CBG, on a sélectionné des plantes, pas nous personnellement, mais des gens à certains endroits, qui, on va dire, où les cannabinoïdes ne se définissaient pas ou peu dans d'autres cannabinoïdes. Ça veut dire que le CBG se transforme en THC, se transforme en CBD, et dans les centaines d'autres qui existent, le THCV, le CBDV, le CBN, etc. Et donc le CBD, c'est le cannabidiol, qui est donc un cannabinoïde. Voilà. Après le passage en CBG, ça se transforme en CBD. Et donc ça a les effets qu'on a déjà communiqués précédemment.
Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la différence entre le cannabis, comme on peut l'appeler à THC, et le cannabis que vous vendez ici ?
L'histoire du cannabis, elle est corrélée avec l'histoire de l'homme et de ses usages et de ses envies en rapport avec la plante. Depuis les années 60, en Occident, on a sélectionné des cultivars qui provenaient de différents endroits de la planète pour avoir des fleurs plus denses, qui ont sélectionné des odeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté de la sélection, de la génétique, des croisements entre certaines variétés. On a voulu des variétés qui défonçaient le plus possible, donc on est allé très très loin dans la recherche de l'augmentation de ces taux et de cette molécule-là. Maintenant, on se rend compte que le THC à haute dose est aussi dans une plante qui est déséquilibrée par rapport à la prise de CBD, par rapport à son contenu global d'autres cannabinoïdes, elle a vraiment des effets néfastes. Du coup, on revient de plus en plus vers des variétés plus équilibrées. Donc ça, ce serait dans un monde imaginaire où il n'y a pas de loi, où on aurait envie d'avoir des variétés qui seraient équilibrées entre ces cannabinoïdes. Maintenant, avec les législations européennes et aussi américaines, donc c'est les Américains qui sont venus avec la définition de qu'est-ce que le cannabis et qu'est-ce que le chanvre. Et ils ont dit, de manière assez arbitraire, hein, c'est pas du tout scientifique, c'est que la différence, c'était 0,3% de THC dans les sommités fleuries. Un peu avant la récolte.
Au-dessus de 0,3%,
c'est du cannabis, et en dessous, c'est du chanvre. Donc, maintenant, avec cette législation-là, pour le commerce de ces produits, il y a une partie des gens qui fabriquent, qui participent à la sélection des variétés, ils ont travaillé à avoir des variétés les plus fortes en CBD possible, tout en gardant des aspects, des odeurs, des arômes, des fleurs qui ont une qualité organoleptique intéressante. Et à forte dosage de CBD, vu que la recherche scientifique a commencé à se pencher là-dessus, et donc voilà, il y a une corrélation entre ce que font les gens au niveau de la sélection, les semences, etc., et les besoins et l'avancée de la recherche. Quoi.
Et du coup, pour la CBD, les molécules de CBD et de CBG, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de maximum. C'est comment vous savez à peu près ce que contiennent vos plantes ?
On fait des analyses pour, bien sûr, pour déjà savoir le taux de THC, qu'on soit bon en termes de taux de THC sur le 0,3. Il y a des lois qui sortent, qui sont enlevées, qui ressortent, qui sont enlevées en ce moment. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un taux maximal de CBD autorisé, mais je ne suis pas sûr de que ce soit gardé au-delà de 20%, quelque chose comme ça, ouais. Si on reste sur de la fleur naturelle, on ne peut pas avoir des taux monstrueux. Par exemple, sur une huile qui serait faite naturellement, on ne peut pas monter à des taux de 20, 30, 40% en fait. Ça ne marche pas. Si vous trouvez des huiles comme ça, elles sont faites avec de l'isolat. Donc on a isolé chimiquement la molécule de CBD et on l'a réintroduit dans l'huile après. Ça veut dire que ce n'est pas full spectrum, ce n'est pas un produit avec le totem de la plante. On a vraiment enlevé une partie. Donc on a enlevé le THC, il y en a même qui se vendent d'être à zéro de THC. Si vous voyez ça, c'est pareil, c'est pas naturel. C'est pas possible dans les variétés de cannabis, quelles qu'elles soient. Du coup, voilà, il n'y a pas de législation, mais c'est vrai que le consommateur devrait avoir quelques petits repères. C'est-à-dire qu'une plante qui serait genre 0,3% de THC, elle peut pas être bien au-delà de 12% de CBD ou de 15-20% de CBG. Au-delà, c'est du rajout, forcément. Ou alors du trafic sur... Ça peut être complètement chimique. Hein. Il y en a, ils enlèvent tous les cannabinoïdes, tous les terpènes, et puis ils remettent du spray sur la plante. Donc complètement chimique, complètement pas bon en termes d'effet. D'ailleurs, ils nous sortent plein de molécules aberrante en termes de taux, le HHC, le HHC4, le CBD4, je sais pas quoi. Voilà, tout ça, c'est des méthodes chimiques qui permettent de soi-disant remplacer l'effet du THC et qui, en pratique, sont vraiment pas très safe pour la santé et ont pas réellement d'intérêt, à mon sens. Nous, on reste sur des produits 100% naturels, donc avec des méthodes des fois différentes pour faire nos produits. Il y en a qui transforment en résine pour après macérer. Il y en a qui font avec des plantes brutes en macération. Voilà. Mais on reste sur quelque chose de vraiment naturel et d'artisanal dans notre boutique. Du coup, nos huiles, par exemple, elles vont être plutôt entre, je dirais, 2 et 8% de CBD maximum. Sachant que, en plus, on parle toujours des taux de cannabinoïdes, mais les dernières études montrent que les terpènes et les flavoïdes, donc les molécules qui donnent le goût à cette magnifique plante, sont responsables d'une grande partie de l'effet santé. Et on n'a pas encore vraiment d'études là-dessus, mais les dernières recherches tendraient à montrer que du coup, quand c'est naturel, il y a tout ça, tout le totem de la plante, et que c'est beaucoup plus efficace en termes médicinaux, même si nous, on ne le vend pas pour ça, puisqu'on est agriculteur.
Ça s'appelle l'effet d'entourage.
Est-ce qu'il y a des sortes de labels ou de groupements de producteurs de CBD qui voudraient, qui tenteraient ou qui existent déjà, qui mettraient en place des cahiers des charges ou des trucs comme ça ?
Il y a les labels, mais qui sont les mêmes que pour les autres types d'agriculture. Donc il y a l'agriculture bio et moi je suis Nature et Progrès en conversion bio. Ellie et Benjamin sont en bio tous les deux. Il y a les mêmes règles, on va dire, que pour les autres plantes. Sachant que Nature et Progrès, je peux en parler un peu mieux parce que je suis dedans. On a commencé à faire un cahier des charges spécifique pour le chanvre à principe actif. Donc le chanvre CBD, chanvre légal, chanvre light, comme on veut, plein de noms. Plus globalement, il y a des syndicats de producteurs qui, eux, sont plus sur de la lutte de légalisation, on peut dire, mais surtout de cohérence dans les lois qui sortent, puisque la France est toujours en train de traîner les pieds à ce niveau-là et qu'elle nous sort des choses interdites par l'Europe, d'ailleurs, souvent. Il faut que les agriculteurs se battent pour que la France suive l'Europe, plein de fois. Du coup, il y a des syndicats, moi, j'en fais pas partie parce que j'ai pas trouvé celui qui me parlait pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des syndicats aussi de chanvriers ou de cannabiculteurs français qui sont actifs, qui luttent pour que cette plante soit plus reconnue en termes santé, hein, puisque comme tout le monde le sait, avec le cannabis ou le chanvre, on peut aussi faire de l'isolant, on peut faire du tissu, on peut faire des piles, on peut faire du plastique, tout ça, dépolluer des sols, etc.
Et du coup, ce qui est vraiment important de savoir à l'heure actuelle, c'est qu'il y a 90% du CBD, du cannabis à forte dominante CBD, qui est produit à l'étranger et qui est revendu en France, sans label, sans contrôle de qualité, etc. C'est une culture malheureusement qui est énormément faite en intérieur, donc c'est du faux sol, c'est de la fausse lumière, et avec des intrants chimiques. Ça n'a aucune cohérence environnementale d'importer des produits cultivés en intérieur dans je sais quel pays, de je sais quelle manière. Du coup, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le bio, etc., le bio, malgré tout, atteste que ce n'est pas une culture hors sol. Et ça, c'est déjà bien. C'est important de le dire. Ensuite, il y aurait le besoin, c'est ce qu'ont fait les Californiens, avec certains labels qui attestent que la plante a été dans le sol et a reçu le soleil. Pourtant, on n'aurait pas besoin de créer des labels pour d'autres plantes que ça, mais on en est là. Ici, dans le magasin, encore une fois, c'est vraiment de revendiquer des pratiques paysannes, des pratiques artisanales de production, de transformation, du cannabis sativa.
Je crois qu'on est très au clair maintenant sur le cannabis légal. Est-ce que vous vous donnez des limites ? Est-ce que vous avez le droit de vendre à toutes les personnes qui passent ici à la boutique ?
Il y a quand même, du coup, comme on disait, un gros flou sur les lois qui entourent cette vente. Comme je vous disais, c'est des agriculteurs qui sont battus pour qu'en France, ça suive l'Europe. Du coup, on prend beaucoup de pincettes. Et même si, quand on en discute et puis quand on fait des recherches, on voit que, bah, par exemple, ça pourrait être intéressant pour des enfants épileptiques qui n'ont pas de médicaments appropriés et le CBD marche a priori très bien, et ben, nous, on a la règle de on vend pas aux mineurs. Donc voilà, pour l'instant, on a cette limite. Et de toute façon... c'est bien si un mineur en a besoin que ses parents s'y intéressent. Voilà. Du coup, on ne vend pas aux mineurs. C'est déconseillé aux femmes enceintes. C'est des précautions qu'on prend. Je ne sais pas si c'est vraiment justifié, mais on les prend parce qu'on est quand même sur un peu une corde raide, on peut dire, ou un fil du rasoir avec ces lois qui changent souvent.
Ça vous met pas trop en insécurité, ça va? Vous êtes à l'aise avec le fait d'en produire et le fait d'en vendre ici avec pignon sur rue?
Pour pouvoir en fait produire du cannabis, il y a en gros trois règles à respecter. Il faut être agriculteur, il faut cultiver, vendre, produire des variétés qui sont dans le catalogue européen. Donc, ce qui est un nombre malheureusement très limité de variétés, ouais, entre 10 et 20 variétés. Donc ce n'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui existe en dehors du catalogue européen. Et la troisième condition, on l'a déjà évoqué, c'est d'avoir un taux de THC qui est inférieur à 0,3%. Donc ça, nous, on fait des analyses régulièrement à différents stades du processus. Donc en général, après, à la fin de la culture, au moment de la récolte, puis après, quand on a par exemple fait une transformation sur un macérat huileux, eh ben, on fait de nouveau une analyse pour savoir où on en est au niveau du taux de THC et vérifier qu'il est bien en dessous de 0,3%. Dès le départ, en fait, c'est des variétés qui sont sélectionnées pour théoriquement être en dessous de 0,3%. Après, en termes de responsabilité légale, avant la récolte, c'est le semencier qui est responsable du taux de THC, quoi. Voilà. Je ne sais pas si là-dessus, si vous voulez compléter...
Le début du cannabis haute teneur en CBD en France, toutes les avancées, elles ont été faites par des combats au pénal. C'est malheureux, mais il n'y a pas de conversation entre les syndicats et le gouvernement pour établir quelque chose ensemble. C'est le gouvernement qui prend des mesures, les agriculteurs... et soutenu par les syndicats qui poursuivent le gouvernement, ou alors le gouvernement, ou enfin, en tout cas la justice, qui prend à partie des producteurs, eux-mêmes, du coup, prennent à partie le gouvernement ou la justice pour la non-constitutionnalité, ou le fait que, en fait, c'est pas possible d'interdire de cultiver une plante inoffensive et légale, d'autant plus qu'ils se trouvent en vente de partout, à Intermarché. Enfin, il y a une sorte de dissonance générale autour du sujet, quoi.
Du coup, souvent, les agriculteurs, Élie l'a pas dit, mais souvent, ils gagnent devant l'Europe, en fait. C'est-à-dire qu'ils poursuivent la France devant l'Europe. Ils ont été condamnés en France, et puis ils passent devant l'Europe, et puis l'Europe donne raison aux agriculteurs. D'ailleurs, sur le taux de THC à 0,3%, bah, y a déjà des pays en Europe qui sont à 1%. Et du coup, bah, y a de grandes chances que soit ces pays fassent marche arrière, soit les autres pays suivent.
Et cette année, il y a plusieurs producteurs d'un des syndicats principaux qui vont cultiver à 1%. Et ils vont aller au pénal. Et voilà, ils ont compris qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on fait avancer le schmilblick.
En France?
En France.
Et vous savez comment ça se passe? Vous en avez un petit peu parlé, mais comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des souplesses? Est-ce que ça se fait depuis longtemps?
Alors, ça dépend si on parle des variétés à dominante CBD, enfin des variétés hors THC, on va dire. Si on parle de ça, bah, toute l'Europe, normalement, est sur un même pied d'égalité, même si y a des pays qui sont déjà à 1%, comme la Tchécoslovaquie, la Suisse, mais elle n'est pas dans l'Europe. Plus loin, eh ben, dans le CBD, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que si on parle de THC, ben, y a beaucoup de pays qui commencent à légaliser. Certains pays qui dépénalisent, d'autres qui légalisent, certains pays qui nationalisent la production pour avoir un contrôle total sur la matière, comme le Canada, d'autres qui le font beaucoup moins, qui laissent les agriculteurs le faire, mais avec peut-être pas assez de contrôle. D'autres pays qu'on croit où c'est que ça a toujours été légal, comme les Pays-Bas, et en fait, ça n'a jamais été légal. Des pays qui légalisent, comme la Thaïlande, on parle toujours de THC, et qui finalement font marche arrière quelques mois après. Voilà, c'est un tâtonnement un peu général sur une plante, une plante mythique et humainement vraiment très utile, je pense, à plein de niveaux, et qui a souffert de beaucoup de lobbies, lobby du coton, lobby pharmaceutique. Voilà. Du coup, on est un peu dans un flou artistique, hein, clairement. Nous, on essaye de prendre des précautions parce que moi, personnellement, j'ai une famille. Donc, je fais quand même attention à ce que je fais. Mais clairement, on n'est pas à 100% d'être sûr qu'on ne nous embête pas. Personnellement, je me suis fait voler les trois quarts de la production de ma production l'année dernière. Une quantité vraiment non négligeable. Qui d'ailleurs, je pense, n'est pas revendu en CBD quand c'est volé, mais qui est remélangé à des THC, puisque nos fleurs ressemblent vraiment à du THC maintenant. C'est vrai que c'est un environnement particulier, mais si personne ne le fait, ça ne se fera pas, et puis ça sera toujours une plante oubliée, alors qu'elle a vraiment des aspects très très intéressants.
Est-ce que vous avez des méthodes différentes de culture, les variétés, etc.? Vous disiez que vous aviez qu'une dizaine, une vingtaine de variétés. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur dans ces 20 variétés? Comment vous la cultivez? Comment vous aimez l'entretenir? Florian?
Les variétés, elles sont limitées, mais quand même, elles ne sont pas toujours très stables. Donc, on a plusieurs phénotypes aussi qui sortent, donc plusieurs expressions du même génotype. Du coup, ça donne d'autres variétés aussi possibles. Personnellement, avec Elsa, on est sur un système de culture qui serait proche de la permaculture, sans travail du sol, en paillage naturel, principalement sans arrosage une fois que les plantes ont commencé à être installées en terre. Bon, bien sûr, on fait des semis en godet. La culture se rapproche quand même un peu du maraîchage, on peut dire. Les plantes sont plantées à espacement quand même important, entre 70 et 1 mètre d'espacement. Ça, je pense qu'on pratique tous la même chose. Après, on ne paye pas tous pareil. En tout cas, on s'interdit tous de faire de l'intérieur. C'est que de l'organique, hein, puisque ça, c'est le label qui le veut. C'est pour ça qu'on est dedans. Nous aussi, sur notre ferme, on essaye d'avoir peu de consommation d'énergie, peu de consommation d'eau, bon, c'est que des eaux pluviales de toute façon, d'être vraiment autonome à plein de niveaux. Ça, c'est un choix personnel, on fonctionne sur très petite surface, et du coup, c'est aussi un risque, hein, parce qu'en cas de problème, on peut tout perdre plus facilement. Je dirais que c'est ça, hein, quelque chose proche de la permaculture, même si j'aime pas les étiquettes qu'on peut donner à tel ou tel type de pratique.
Elsa, tu veux dire un mot?
Oui, avec Florian, nos plantes, elles sont dans le jardin, aussi bien avec les arbres et les autres aromates, donc tout le monde s'entend bien. Et on pousse la minutie à ramasser les limaces à la main et les chenilles à la pince à épiler quand elles commencent à envahir. Donc on est au contact de nos plantes tous les jours et c'est des belles plantes agréables à fréquenter.
Benjamin ?
Moi, je suis aussi maraîcher, donc comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2018. Et comme j'avais des grosses difficultés au niveau du sol, je suis passé ce qu'on appelle en maraîchage sol vivant depuis environ 2-3 ans. Ça veut dire que concrètement, depuis 2-3 ans, j'ai apporté quasiment, on va dire, entre 250 et 300 mètres cubes de matière organique, donc principalement du broyat de végétaux. Pour repréciser au niveau de ce qu'on appelle maraîchage sol vivant, ou en tout cas culture en sol vivant, c'est soit réduction complète du travail du sol, soit avec un objectif de non-travail du sol, et apport important de matière organique, plutôt carbonée. Voilà, donc ce qui permet d'avoir des sols toujours couverts, de stocker la matière organique, notamment le carbone, dans les sols. En tout cas, à titre personnel, je sais que là, depuis 2 ans et demi, je commence à avoir des bons résultats, en termes, que ce soit sur la partie maraîchage que sur le côté chanvre, qui pousse aussi dans un sol voilà, au maximum vivant. Et un des critères de ce que c'est un sol vivant, c'est la quantité de vers de terre, pas que. Et l'intérêt comme ça d'apporter de la matière organique, c'est de pouvoir augmenter la biodiversité, enfin de considérer le sol comme un véritable écosystème, comme un organisme vivant en fait. Et du coup, le vers de terre a vraiment une place centrale là-dedans. Et du coup, une des manières d'évaluer si on a un sol vivant ou pas, c'est de compter le nombre de vers de terre. Et voilà, et du coup, moi, je sais que dans mon sol, là, je commence à avoir des grosses, enfin, ça dépend des endroits, mais des grosses quantités de vers de terre. Voilà, donc du coup, là, le chanvre pousse dans ces conditions-là. Voilà.
Élie ?
Vercors sativa, c'est 280 mètres carrés de planches permanentes. Dans une prairie de luzerne à 600 mètres d'altitude, en agriculture biologique, avec des pratiques un peu geeks, du genre les thés de compost oxygénés, etc. Sinon, beaucoup de purins, de consoude, d'ortie, des décoctions de prêles, de l'apport de lombricompost, qui est mis dans de l'eau, qui est oxygéné pendant un certain temps pour vraiment cultiver la microbiologie du sol et la macro. Et donc voilà, ça c'est ensuite mis dans l'irrigation, quoi.
Et vous voyez des différences, si vous avez des petites différences de culture, d'itinéraire de culture, est-ce que vous voyez un peu entre vos différents cannabis quelques différences ou pas ?
Pour le moment, on cultive aussi pas tous les mêmes variétés au sein du catalogue. C'est aussi un souhait pour le magasin. C'est dur de déterminer des différences de pratiques. Ensuite, y a aussi beaucoup de choses qui vont influencer le produit final, que ce soit donc au cours de la culture, des intempéries, la manière aussi de gérer les chenilles. Le séchage, la récolte, en fait finalement le travail de culture, pour en revenir à la question du cannabis, est relativement facile comparé à d'autres plantes qu'on peut retrouver en agricole. La particularité, c'est quand même l'attention qui est mise en post-production, donc pour les feuillages, pour le mondage, etc., qui est quand même très chronophage et qui demande une certaine minutie pour arriver à la qualité des fleurs que vous aimez.
Les chenilles dont vous avez parlé, c'est des chenilles de papillons qui s'attaquent spécialement un peu au cannabis ?
Je pense pas qu'elles s'attaquent principalement au cannabis, mais c'est vrai que sous nos latitudes et dans le climat donc d'Iwa, on a quand même pas beaucoup de problèmes de champignons, de moisissures. En tout cas, moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose auquel je fais attention et j'ai vraiment eu aucun souci sur les cultures. Le point de vigilance, c'est effectivement les chenilles, qui sont vraiment les terminators du chanvre, car elles vont longer la tige et remonter et manger les meilleures fleurs, et elles font des petits cacas qui, eux, peuvent effectivement créer des moisissures. Bon, moi, ça s'est pas passé chez moi, mais en tout cas, ça vient vraiment détruire la qualité du produit. Et il n'y a pas vraiment d'autres moyens naturels que de tous les jours, comme l'a dit Elsa. Et c'est ça qui est beau aussi, car c'est des plantes qui rendent bien l'attention qu'on leur donne, d'y passer. Et on se surprend vraiment à développer un œil de dingue pour voir un caca de chenille sur une fleur à l'autre bout de la rangée, quoi. C'est... À un moment donné, on sait, quand il y a une chenille dans la plante, on le sait, il n'y a plus qu'à la chercher, quoi.
Et où est-ce que vous cultivez ?
On ne va pas pouvoir répondre directement à cette question parce que pour des raisons de sécurité, c'est mieux de ne pas être précis, de pas dire à quel endroit précisément on cultive, pour des raisons, comme l'a dit tout à l'heure Florian, de ne pas se faire voler nos cultures. Mais en gros, on cultive tous les quatre, dans le Diwa, voilà, aux alentours de Di, en gros, quoi.
Pourquoi c'est une culture qui est autant volée ? Il y a le safran qui est beaucoup plus cher que le cannabis, non ? Vous, Saflor, Elsa et Florian, qui faites aussi du safran.
On ne s'est jamais fait voler de safran. D'ailleurs, on n'a plus de champ de safran, même si on vend encore du safran de nos stocks. Mais le safran, pour le récolter, 1 gramme, 30 euros, il faut, je ne sais plus les chiffres, 200 fleurs. Et du coup, il faut genre 1 gramme, il faut au moins 10-15 minutes, je dirais, Plus après, il faut le faire sécher, etc. Bon, ça, c'est le même problème pour le cannabis. Mais moi, l'année dernière, donc, je me suis fait voler, je pense, 20 à 30 kilos de fleurs sèches. Donc, elles n'étaient pas sèches, hein, bien sûr, quand je me suis fait voler sur pied. Tout ça en 2 heures. Possibilité à la vente, nous, on vend, bon, on n'a pas encore dit, mais entre 3 et 3,50 et 4,50 le gramme à la boutique. Faites le calcul. Donc 60 000 euros, sachant que c'est sûrement vendu en THC, donc c'est encore plus, voilà, en 2 heures. Sachant qu'il faut quand même que les voleurs puissent le sécher, etc. C'est quand même quelque chose d'un minimum organisé pour voler une telle quantité, mais c'est faisable et c'est très rentable pour le coup. Du coup, ne venez pas cette année dans mon champ, c'est plus le même champ, vous n'allez pas le trouver, cherchez pas.
Et quelle quantité vous produisez par an, Benjamin?
Personnellement, ça fait du coup, c'est la deuxième année que je cultive du CBD. L'année dernière, j'ai vraiment fait pousser à très peu de plants. Donc, j'ai récolté en gros 5 kilos de fleurs de CBD et un peu de CBG. Voilà.
Ellie?
Vercors Sativa, c'est une petite entreprise par moi-même et à côté de ça, je suis aussi salarié agricole et donc je fais entre un mi-temps et parfois un plein temps pendant la période des foins. Donc c'est vraiment une petite exploitation de 280 mètres carrés, donc finalement avec une petite production, voilà, quelques kilos.
Et ça, Flore?
Nous, cette année, on a prévu de mettre une soixantaine de plantes. 60 à 80, je ne sais pas, suivant ce qui va rester des limaces.
Et avec votre production à tous les quatre, vous pouvez tourner d'une année sur l'autre ici à la boutique. C'est quoi un peu vos prévisions de vente en volume? Vous avez une idée?
En tout cas, je pense que l'objectif de tous les trois, c'est de réussir à ce que cette boutique tourne vraiment et qu'il n'y ait pas besoin, en tout cas moi personnellement. Le but, c'est de ne pas avoir réellement besoin de vendre à d'autres endroits ces produits-là, dérivés de cannabis. Nous, Saflore, on teste quand même de vente sur les festivals, mais on espère ne pas avoir besoin de vendre sur le marché ou de vendre dans d'autres endroits qui pourraient nous prendre du temps que ce magasin et éventuellement quelques festivals si on voit que c'est intéressant.
Comme je le disais avant, il y a 90% du CBD qui est vendu en France, qui n'est pas produit en France. Donc je pense qu'il y a quand même des parts de marché à reprendre et les gens du coin sont sensibles à ça. Donc je pense que ça va pouvoir fonctionner et voilà, nous faire vivre si les gens font l'effort de comprendre la qualité, la provenance, l'éthique. Aussi à savoir que voilà, les revendeurs de produits CBD font des marges tout à fait colossales. Je ne sais pas les nombres exacts, mais on dit entre 60 et 200 euros le kilo. Et ils vous le revendent 4, 5, 7, 8 euros le gramme. Donc c'est voilà, y a encore un côté un peu fumeux autour de ce marché qui est vraiment important de clarifier. Et la clarification, elle se fait au contact avec les producteurs pour que vous puissiez être au courant de comment ça se passe.
Oui, là c'est en comptant les gens qui connaissent déjà la plante et qui la consomment déjà. Et moi je pense qu'il y a aussi plein de gens qui vont gagner à la connaître et que c'est aussi notre rôle. Donc moi j'invite toutes les personnes, un tant soit peu curieuses, à pousser la porte du magasin, à rentrer. On est accueillant et disponible. Je suis pas la spécialiste de cette plante, mais j'apprends à la connaître grâce à mes collègues, grâce aussi à des personnes qui viennent faire des retours sur les produits qu'ils trouvent chez nous et qui sont satisfaits, qui retrouvent un sommeil apaisé, qui apaisent des douleurs de genoux, d'épaules, tout un tas de bienfaits. Cette plante est assez méconnue justement avec tout ce côté fumeux. Elle a été mise au placard et il est temps que chacun se l'approprie en fait, la découvre et voilà, bienvenue chez nous pour ça.
Et on rappelle l'adresse?
Eh bien, nous disions le 16 rue Camille Buffardel. Est-ce que je vous donne les horaires?
Avec plaisir.
Le mercredi et le samedi matin, les jours de marché, de 9h30 à 13h, même 13h30 le samedi. Et les après-midi, c'est le vendredi et le samedi, 15h-19h. Et de maintenant jusqu'à la fin de l'été, il y a les lundis soirs de 17h30 à 20h30, en même temps que le petit marché qui a lieu en face du lycée.
À savoir que ces horaires, voilà, elles sont encore provisoires. On est en train de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui vous va le mieux. On est aussi agriculteur à côté, hein, on n'est pas que vendeur, donc on a des emplois du temps qui peuvent être dynamiques, qui bougent avec des inattendus. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour respecter les horaires, mais voilà, des fois il y a des inattendus.
L'intérêt de venir dans une boutique de producteurs de CBD, c'est que du coup, en échangeant avec nous, on peut vraiment vous parler dans les détails de comment on cultive, comment on s'y prend pour transformer et du coup assurer vraiment une transparence sur nos pratiques agricoles. Si les gens veulent accéder aux analyses, par exemple, eh ben, on peut les fournir. Les quantités de CBD et toutes les autres molécules de cannabinoïdes contenues dans la plante.
Florian ?
Moi, je voulais vraiment insister sur un truc qui me tient à cœur parce que ça m'a permis de changer pas mal de choses dans ma vision de cette plante et dans ma consommation de cette plante. C'est si vous voulez essayer des vaporisateurs, n'hésitez pas, venez à la boutique, appelez-moi. Et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir cet ustensile qui permet de plus avoir de combustion, voire de consommer, parce que en vrai, c'est la nicotine qui vous tient. Tout fumeur de cannabis light ou pas light, c'est la nicotine qui te tient. Si tu veux vraiment profiter de ta plante et des saveurs, passe à la vapeur.
Je rebondis là-dessus. Comment vous la consommez, comment vous le consommez, le cannabis ?
Moi, en vapeau, avec les miens. Et des fois un peu en huile pour essayer mes produits. Mais moi, c'est vraiment une habitude anciennement de fumeur. Et c'est vrai que la vapeau m'a sorti de la combustion.
Elsa ?
Eh bien, parfois, Florian me partage ses vapeaux. Sinon, l'huile sur certaines douleurs, ponctuellement.
Élie ?
Donc moi, j'aime bien le petit spliff du soir, avec ou sans tabac. Et même si c'est sûr que c'est le tabac qui nous tient et que pour vraiment pouvoir se connecter et ressentir les effets de la plante, j'invite vraiment tout le monde à essayer de la consommer sans tabac. Et ensuite, pour les boulots agricoles, je suis féru de baume, d'huile, d'alcoolature. Je lâche une petite exclue, mais je suis en train de travailler sur des pastilles infusées à l'alcoolature. Et là, la recherche et développement m'a soulagé une tendinite au bras terrible. Donc voilà, un peu toutes sortes.
Benjamin ?
C'est surtout avec de l'huile. Voilà, le métier de maraîcher, c'est parfois un peu stressant. Il y a pas mal d'incertitudes. Et du coup, de temps en temps, pour bien dormir, quelques gouttes d'huile de CBD sous la langue... Ça permet de mieux récupérer après une nuit.
C'est la première fois que je rentre. Je vais faire un petit tour, comme si je faisais mes courses. En rentrant, on a les infusions. Il y a plusieurs infusions. Ça, c'est toi, Benjamin ?
Oui, c'est ça, c'est moi. Donc, il y a une première gamme qui s'appelle ma souplesse articulaire, où du coup, c'est un mélange de plantes et avec du coup 20% de CBD, de fleurs de CBD décarboxylées. Ensuite, une deuxième gamme, mon sommeil réparateur, donc pour les difficultés de sommeil. Pareil, un mélange de plantes et 30% de fleurs de chanvre. Et la dernière gamme, qui s'appelle mes lunes apaisées. Donc ça, c'est par rapport aux douleurs menstruelles, pour pouvoir les soulager. Et pareil, c'est un mélange de plusieurs plantes qui permettent de soulager les problèmes de douleurs menstruelles.
Et ensuite, je passe à côté. Pure fleur de chanvre, CBD et ou CBG de Saflore, donc avec la mention nature et progrès. Tu veux en dire un mot, Florian ?
Voilà, là, c'est les fleurs déjà emballées. On a aussi du vrac à la boutique, hein, du 3 grammes, 5 grammes là. Et puis juste à côté, peut-être que tu n'as pas vu, c'est du chanvre à cuisiner, donc il est déjà décarboxylé, donc CBD, CBG. Voilà, et puis après, un baume CBD-CBG en mix et un macérat CBD-CBG en mix dans de l'huile de tournesol.
Je continue mon petit tour. Infusion de plantes. Cosmos, plante des baronnies provençales. Ça, c'est toi, Ellie.
Eh bien, du coup, c'est ma compagne qui est productrice de plantes aromatiques et médicinales du côté de Saint-Jal. Donc, c'est une occasion pour elle d'avoir une petite visibilité dans le Diwa. Et elle fait vraiment des tisanes magnifiques qui méritent d'être goûtées. Et du coup, c'est sans chanvre. C'est vraiment les plantes aromatiques et médicinales.
Et les baumes, ici, c'est pareil, c'est ta compagne.
C'est un petit featuring entre ma compagne et moi. Donc, on a mélangé des macérats huileux de plantes, donc romarin, laurier noble, consou officinal avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et un macérat huileux très concentré en CBD pour un baume local, articulaire, etc. qui est beaucoup utilisé par les potiers déjà.
Là, on a les alcoolatures aussi, ça c'est toi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est de l'alcool de grain biologique à 96 degrés dans lequel on plonge les fleurs. C'est vraiment l'alcoolature, une méthode qui est très utilisée en médecine naturelle depuis la nuit des temps pour ses qualités de conservation et de stockage comme solvant des principes actifs de certaines plantes. Voilà, avec des goûts différents que l'huile, mais finalement des effets assez similaires.
Et là, on a des petits sachets. Effectivement, il y a quelque chose qui ressemble à du shit, comme disait Florian.
On appelle ça du dry sift pour les connaisseurs. Donc en fait, c'est simplement des fleurs de CBG qui sont tapotées au-dessus d'un tamis de 200 microns et ensuite qui passe à travers le tamis de 200 microns est compressé. Et donc ça donne un produit qui est aux alentours de 15% de CBG, 0,3% de THC et qui est très efficace pour les douleurs menstruelles, douleurs musculaires, articulaires, etc.
Et là j'arrive au comptoir et je vois des bocaux de fleurs en vrac. Tu peux m'en parler, Elsa ?
Oui, là sur le comptoir on trouve les fleurs des trois fermes différentes avec chacune plusieurs propositions. Les personnes peuvent venir avec leur propre contenant, un petit pot, ça fait l'affaire, sinon on a des sachets si besoin. Donc les personnes nous disent combien elles veulent, on leur pèse, elles peuvent même mixer, et donc, prendre plusieurs fleurs en même temps de différents bocaux. Elles peuvent ouvrir les bocaux et les sentir pour faire leur choix sur les arômes, par exemple.
Eh ben, je continue le tour, je me dirige vers la sortie. Et là, il y a les accessoires que Florian fabrique.
Des vaporisateurs en bois, en verre et en liège pour faire les petits joints d'étanchéité, c'est du liège. Le verre, c'est du verre borosicate. Bon, c'est un verre qui permet d'être chauffé sans dégager rien du tout. Et puis les bois, il y a du frêne, du noyer. Et puis exceptionnellement d'autres bois, là je crois qu'il n'y a que du frêne et du noyer. Voilà, c'est le principe aussi, c'est que c'est de la récup un petit peu de bois, donc c'est les chutes de bois des collègues menuisiers. Quelques petits échanges de services, je récupère tous ces bouts de bois et je leur donne une autre vie que le poêle à bois. J'ai aussi un vapeau tout en verre, je travaille un peu le verre, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps parce que ça me paraissait sympa. Voilà, une petite distraction en plus.
Et là, j'arrive devant la kombucha, bien connue, kombucha de Saflore. Est-ce qu'on en dit un mot ?
Pour l'instant, il y a les trois saveurs habituelles, nature, safran et cola, entre guillemets, avec les aromates du jardin. Depuis peu, j'ai testé à la lavande, qu'on ne trouve pas encore partout, et au chanvre, qu'on trouve très bientôt à Indica.
Et là, on a les sirops de plantes aussi, de Saflore. On a aussi la gelée basilic cannelle, on a les sels, on a les courgettes aigres douces et au safran, et les vinaigres. Voilà, on a fait le tour de la boutique. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Venez découvrir cette boutique. Indica, qui veut parler du nom ?
On dit cannabis sativa, mais il y a une sorte de dichotomie à la base qui est le cannabis indica. Donc indica qui provient de l'Inde finalement et qui est là un peu la source originale du chanvre, le plus lointain dans l'histoire sur les hauts plateaux du Tibet qui poussait à 5000 mètres d'altitude. C'était le cannabis indica. Donc voilà, c'est un peu l'origine. Et donc voilà, un jeu de mots un peu de coiffeur qui nous a fait rire et on souhaitait vous le partager. Such a short way up and such a long way down. And this is a bubble like where they are right down. The way you
there's something off it off it way by pound. In a fields of marijuana, that is my playground. I love you, Mary Jane. You're the prettiest of flowers, girl, me can't complain. When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain. Cause you know the people damaged like that bitch cocaine. No, I leave them lonely, feeling only pain. Cause your DNA is of the highest strain. Your effect is so potent, it's so insane. You so gummy and sticky like a plaster stain. When you grind out your body, only stems remain. And to love you is so risky, I might get detained. You always keep me flying on the highest plane, and anybody know we'll always proclaim.
Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine.
Your little kids and old women too. And I say to myself, what a wonderful herb. And I say to myself, what a wonderful herb. Look how Babylon stood up me. Them fight you for years. For your love only per man serve years. Babylon stood up me. Them fight you for years. And now the whole of them are by shears. You should be a celebrity amongst any tree across the seven seas for your energy, but you're an enemy catching felonies for the remedies in your recipes.
Medication, your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine. Elevation. Your medication makes me high, yeah.
Musty, oh, you feel splendid indeed. With a little bit of black splendid in the weed. Appearance grown indoors, not a stick nor seed. And she never post-ripe, it was a real slow speed. No fertilizer, natural baby feed. No cross-pollination, she's a real pure breed. Cultivated with love and she's not grown for greed. She's everything I want and also all I need.
Medication.